pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Ça s'est toujours fait, hein. Toutes les armées du monde ont procédé ainsi. Moi qui fais l'Indochine, l'Algérie, eh ben, on faisait exactement comme les Allemands. Quand on était victime d'un attentat ou d'un sabotage, eh ben, on s'en prenait sur les populations voisines du lieu où avait eu l'attentat ou le sabotage. Et les Allemands, bah, ils faisaient déjà comme ça avant.
Quand tu dis « on », c'est l'armée française. Oui, hein. Il se trouve que toi, tu n'as pas pratiqué justement ce genre de méthode.
Oui, je n'ai pas pratiqué personnellement, mais j'y ai été mêlé malgré tout. Hein, parce que du moment que je ne me suis pas opposé, j'étais consentant. Je faisais partie intégrante de l'armée d'occupation, hein, d'un pays qui voulait sa libération. Hein. J'en avais tout à fait conscience. Combat intérieur. Il y avait deux mois. Il y avait le mois partisan de l'indépendance des peuples coloniaux. Comme j'ai été partisan de l'indépendance de mon pays contre l'occupant allemand. Et puis il y avait le moi qui était le soldat qui devait obéissance parce que j'avais un serment moral. Je ne devais donc pas trahir contre les ordres qui m'étaient donnés. Quelquefois la nuit, je me réveillais et puis je me disais qu'est-ce que je dois faire, hein.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. C'est avec la voix de notre ami Pat, Pierre Alban Thomas, que s'ouvre notre traditionnelle émission anti-guerre des abords du 11 novembre. Dans cette émission, Pat vous a déjà raconté sa vie militaire. Dès 1940, il résiste aux forces fascistes allemandes et françaises qui martyrisent le pays. Puis, de la résistance, Pat entre dans l'armée pour la bataille d'Allemagne, puis pour les guerres coloniales d'Indochine et d'Algérie. Combat intérieur. L'ancien résistant se retrouve occupant, à faire la guerre contre d'autres résistants qui luttent pour l'indépendance de leur pays, tout comme Pat l'a fait pendant l'occupation. Car la plupart des guerres charrient l'absurdité. Il n'y a pas de guerre propre, on le rappelle tous les ans aux alentours des cérémonies du 11 novembre, dont on ne semble toujours pas tirer d'enseignement. Et cette année, on a décidé de penser à la guerre en chanson contre. Pas seulement la guerre de 14-18, mais contre toutes les guerres dont les victimes sont toujours de pauvres gens. Vous voici aujourd'hui de retour sur le 11 novembre 2021. Ce jour-là, votre serviteur est allé faire ses courses sur le marché d'à côté de chez lui pour tomber sur la chorale La Petite Rouge de Touraine. Des copines et copains qui, tous les 11 novembre, chante contre la guerre, pas seulement contre la première grande boucherie mondiale. Vous voilà donc sur un marché et la Petite Rouge de Touraine s'apprête à entonner une chanson intitulée « Quand un soldat ».
Au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'avance qui va. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son baba contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en bat en guerre, il a dans sa musette son bâton maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu à la guerre, à la guerre. C'est un drôle de petit jeu qui baguère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller.
Faut s'en aller.
Regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé. Il en faut toujours, car la guerre, se fout des serments d'amour, elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine
voilà.
Quand un soldat, par la chorale La Petite Rouge de Touraine, où chante notamment notre invité d'aujourd'hui, Bruno, ancien cheminot, syndicaliste, copain de manif et de radio. Salut Bruno.
Salut.
Ravi de recevoir un copain dans cette émission, l'un des animateurs de l'émission Rouge et Noir, demain le grand soir sur Radio Béton, le mercredi, des anarchistes, des communistes libertaires et autres asociaux.
Oui, tout à fait. Moi, je fais simplement un petit volet qui s'appelle Chanson contre et qui présente l'histoire sociale.
Depuis fort longtemps, dans cette émission, tous les ans aux alentours du 11 novembre, on vous rappelle quelques citations. La guerre est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. Paul Valéry. On ajoute toujours d'Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Et c'est toujours d'actualité. Canon français César suscite l'admiration de tout le monde sur le front de l'Est, en Ukraine, 2022. Bon matériel français. Et donc tous les ans, aux alentours du 11 novembre, on vous parle non seulement de 14-18, mais de l'imbécilité de la guerre de manière générale. Et aujourd'hui, on va, avec toi, Bruno, et les copines et copains de la chorale La Petite Rouge de Touraine, on va parler de la guerre de 14-18 et de toutes les guerres. Avant qu'on se lance dans cette émission en chanson, Bruno, 14-18, ça a plus d'un siècle, enfin franchement, t'as pas autre chose à penser, enfin pourquoi tu t'intéresses à ça? C'est vieux.
C'est vieux, mais c'est la guerre, et c'est toujours d'actualité, et la guerre, on le voit bien en ce moment en Ukraine. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est comment elle est ressentie par la population, une population peut-être emmenée dans les campagnes, les gens de peu, comment ils ressentent ce coup de tonnerre, quand la séparation, comment c'est vécu à l'intérieur de la population. On n'en parle jamais des populations, comment ils vivent la guerre, à l'arrière comme au fond.
Alors on rappelle que celle de 14-18 fait entre 17 et 20 millions de morts, 10 millions de gens sous uniforme et puis les autres des civils. Hein. Côté français, c'est 1 300 000 soldats qui passent à la casserole. On ne parle pas, bien entendu, des gueules cassées, des gazés, enfin de tous ces gens qui sont morts après le 11 novembre 1918, des suites de leurs blessures. Sans parler des cohortes d'orphelins, de veuves, et cette natalité qui va stagner. La France va rester environ à 40 millions d'habitants jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il y a un truc qu'on ne dit jamais non plus, c'est que dans la foulée de 14-18, il y a eu ce qu'on a appelé la grippe espagnole, qui n'avait absolument rien d'espagnol, c'était un virus asiatique, et qui a pu proliférer et prospérer dans ce paysage de décombres, de misère, de malnutrition, de mal logement, terrain formidable pour une épidémie. Je crois que la soi-disant grippe espagnole a fait environ 50 millions de victimes, ou un truc comme ça, qu'on peut mettre finalement sur le compte de 14-18, parce que les populations étaient tellement exsangues. On pourrait aussi dire que le 11 novembre 1918 est une pause dans la guerre de 1914-1945. Même pas 20 ans qui les séparent, on prend les mêmes et on recommence à peu près. La Seconde Guerre mondiale fera environ 60 millions de victimes. Propagande, tous les dirigeants sont pas toujours au service du peuple, que ce soit les nôtres ou ceux d'en face. Et pour parler de 2022, il y a propagande. C'est vrai que le vilain Poutine a l'air effectivement d'être un sale type. Est-ce qu'on est dirigé par des gens mieux? Je sais pas. Attention, parce qu'il y a un siècle, le méchant, l'assassin, le violeur d'enfants, le pillard, le barbare, c'était pas les Russes qui en 14 étaient les alliés de la France. En 14, le méchant, c'était les Boches, les Schleux, qui aujourd'hui sont nos amis et des gens formidables et très vertueux, avec qui on marche main dans la main. Donc attention, l'ordure d'hier, le soi-disant ami d'aujourd'hui, méfions-nous de toutes les propagandes et de toutes les époques. Et pour en revenir à cette histoire de propagande, moi il y a un truc qui m'a toujours sidéré avec 14, et des témoignages le confirment. Jean Giono notamment en parle dans une nouvelle de cette fameuse fleur au fusil, de cet enthousiasme délirant qui aurait accompagné le déclenchement de cette guerre de 14-18 déclarée par l'Allemagne. Effectivement, il y a eu moult témoignages de liesse. On avait, il faut dire, préparé toute une génération, y compris à l'école, à foutre une pilée aux Boches suite à la défaite de 70, qui a coûté à la France à l'époque la perte de l'Alsace-Lorraine. On avait préparé des écoliers et toute une génération à la revanche. Donc je peux comprendre qu'il y a eu cette fameuse fleur au fusil, cette liesse populaire de « on leur fout une pâtée et on rentre pour Noël ». Bon, cela dit, ils ont dû déchanter dès qu'ils sont arrivés sur le front, hein, dans cette machine de guerre. Mais cela dit, bon, des jeunes gens bien imbibés de propagande depuis leur naissance, je veux bien. Des patriotes ou des patriotards convaincus, plus mûrs, je veux bien. Mais il y a toujours une part au fond de moi qui me dit « non mais attends, est-ce que c'est de la propagande qu'on n'a pas dépoussiérée depuis 1914 jusqu'à nos jours ?» Parce que j'ai du mal à croire qu'un paysan qui s'apprête à moissonner s'arrache à sa moisson pour aller défendre une terre à des centaines de kilomètres de chez lui, la joie au cœur et la fleur au fusil. J'aurais tendance à penser que le paysan qui s'apprête à moissonner, ça le fait chier en fait, de partir faire la guerre. J'aurais tendance à penser que l'homme mûr, père de famille, rationnel, que c'est pas la joie au cœur qu'il abandonne son foyer, ses enfants, sa femme, pour aller se battre on ne sait où, même si c'est pour rentrer pour Noël. Même si la propagande était bien faite, ça me semble sidérant qu'on mitige pas un peu cette histoire de fleur au fusil.
Non, effectivement, mais il fallait voir. D'abord, ce sont les jeunes qui ont été endoctrinés avec cette chose. Ça ne devait pas durer très très longtemps. On allait marcher sur Berlin pratiquement tout de suite. L'histoire de l'Alsace-Lorraine qu'on a perdue, donc il y a le patriotisme qui a été exacerbé. Et tout allait rentrer dans l'ordre, c'était une petite promenade. Tout allait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Et on récupérait l'Alsace et la Lorraine et Okaïda. Après, ça, déjà, les jeunes qui sont retrouvés sur le front, sur un front où il y a eu déjà des pertes énormes dès les premiers jours. Puis après, la mobilisation qui a été plus généralisée, où on envoyait des gens d'âge mûr, donc le paysan qui voyait sa récolte et tout ça. Enfin, bon, on a commencé à déchanter très, très, très rapidement. Mais il y a eu l'épisode de la fleur au fusil. Oui, effectivement, ça a pu marcher quelques semaines.
Enfant, regarde sur ces cartes ce point noir qu'il faut effacer. De tes petits doigts, tu l'écartes. En rouge, il vaut mieux le tracer. Plus tard, quoi que le sort te fasse, promets-moi bien d'aller là-bas chercher les enfants de l'Alsace qui nous tendent leurs petits bras. Puisse, en notre chère France, les rameaux verts de l'espérance fleurir par toi, mon cher enfant. Grandis, grandis. La France attend.
Dès l'été 1914, soldats français et allemands vont se faire massacrer par dizaines de milliers. Le front ouest va très vite s'embourber dans la boue des tranchées, avec une ligne de front qui, en 4 années de boucherie, ne va finalement bouger que de quelques centaines de mètres. Des dizaines de milliers d'hommes vont être assassinés pour une colline ou les ruines d'un village, tantôt conquis, perdus, reconquis pour être reperdus. Et le mécontentement va très vite gronder chez les soldats des deux camps, qui ont vite compris qu'il n'était que de la chair à canon massacrée sans résultat. C'est ce que dit La Butte Rouge, chanson signée Montéus, Bruno.
Oui, Montéus était un chansonnier anarchiste, antimilitariste, qui faisait partie de ce qu'on appelle la Muse Rouge, un groupement de chansonniers ou d'artistes. Un gros problème, c'est qu'à l'arrivée de la guerre, 1914, il a retourné sa veste et il a embrassé l'Union Sacrée. Pendant la guerre, il a fait des chansons patriotiques.
L'Union Sacrée où nombre de gens de gauche, enfin, qui avaient des aspirations socialistes, d'un seul coup laissent tomber tout ça, retournent leur veste et vont rejoindre le camp de la bourgeoisie dans cette boucherie. Quoi. Des deux côtés du Rhin d'ailleurs, hein, le même phénomène a eu lieu. Les socialistes de l'époque, des deux côtés du Rhin, première trahison historique peut-être des socialistes. D'un seul coup, on dit, on va attendre pour le socialisme, vous allez aller étriper les paysans et les ouvriers du camp d'en face. Vous qui êtes aussi des ouvriers et des paysans.
Oui, on avait abandonné complètement les thèses internationalistes, première et deuxième internationale. Donc là, il s'agissait que les peuples, au lieu de s'unir, se massacrent. Pour la bourgeoisie, quoi.
Montéus n'a pas été le seul à se faire berner rouge jusqu'en 1914. Et puis d'un seul coup, on adhère à l'Union Sacrée, à la guerre impérialiste et bourgeoise. Il n'aura pas été le seul à se faire berner, d'ailleurs. Mais il va se ressaisir, Montéus.
La Butte Rouge a été écrite après le conflit, c'est-à-dire en 1921. Et il a essayé de se racheter. Parce que Montéus a été même décoré de la Légion d'honneur pour les chants patriotiques qu'il a fait pendant la guerre. Mais en 1921, il écrit cette chanson « La Butte Rouge » que certains disent c'est la butte Bapaume, la bataille de Bapaume. Or, apparemment, c'est beaucoup plus vague que ça, parce qu'à Bapaume, c'est une plaine. Donc on n'arrive pas vraiment à situer cette bataille qui parle de cette butte, d'une butte sanglante. Il faut dire qu'il l'a écrit en 1921. C'est pas le lieu historique qui compte, mais vraiment les événements qui sont produits.
La Butte Rouge par la chorale La Petite Rouge de Touraine.
Sur ce but-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname, et le roi des patelins. Elle en a vu du beau sang cette terre, sans d'ouvriers et sans de paysans, car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, ont tué les innocents. La Butte Rouge, c'est son nom, Baden suite un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, boire à ce vin-là, boire à sang des copains. Sur ces buts-là, on n'y fait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Et les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. C'est en la vue des larmes de cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, car ce sont des tyrans. La Butte Rouge, c'est son nom, la même suite un matin, où tous ceux qui m'appellent roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boit de ce vin-là. On y fait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles et gars doucement qui échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers. J'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La Butte Rouge, baptême suite un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui il y a des vignes, il y pousse du raisin, mais moi j'y vois les croix portant le nom des copains.
La Butte Rouge par la chorale La Petite Rouge de Touraine.
Bruno, on le disait tout à l'heure, oui, la fleur au fusil, ça a dû marcher sur des tas de gens. Mais en fait, ceux qui sont arrivés au front ont vite déchanté parce qu'ils ont vu ce que c'était que la réalité de la guerre, de la boucherie. Surtout qu'au début, c'est bien connu, on les envoie avec des pantalons rouges. Il n'y a pas encore la notion de camouflage à l'époque. Et ils se font tirer comme sur un champ de foire. C'est une hécatombe, hein, on le rappelle, juste côté français. C'est 1 300 000 morts soldats. Hein, on ne parle pas de ce qui se passe à l'arrière. Donc, ils ont déchanté. On associe souvent l'histoire des mutineries à 1917. Ça concorde avec l'explosion de la révolution russe. Puis d'un seul coup, la peur des rouges hein, qui va s'abattre sur tous nos dirigeants. On rappelle d'ailleurs hein, que les souverains de la plupart des pays européens sont tous cousins. C'est vraiment une histoire de famille. Hein. On rappelle Valéry, hein, la guerre c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Il y avait plein de petits-enfants de la reine Victoria, je crois, en Russie, en Angleterre, évidemment.
Et en Allemagne.
Mais ça commence à ruer dans les brancards bien avant 17. Dès 14, on a de rares traces de gens qui sont pas d'accord, qui d'un seul coup se rendent compte qu'ils se sont fait envoyer au massacre et qui bronchent. Alors, mutinerie, bon, on dit souvent 17, mais le mécontentement s'est très vite installé.
Oui, oui. Déjà, on a eu des traces en 1915, des refus de monter au front. Il y avait un mécontentement, c'était pas franchement une mutinerie, mais on discutait les ordres. On a vite déchanté, vite déchanté. Il faut dire, tu parles des pantalons rouges et des uniformes bleus. Côté allemand, c'était pas mieux. Ils avaient peut-être un uniforme un peu moins voyant. Par contre, ils avaient encore des casques en cuir, casques à pointe en cuir. Et ça a été exactement le même schéma de l'autre côté de la frontière. Cette population qu'on a envoyée défendre des causes.
En face aussi, ils ont eu droit à la fleur au fusil. Hein. On les a envoyés se faire massacrer. Bon, finalement, ils ne savaient pas trop pourquoi. Sentiment patriotard aussi de l'autre côté, quoi. Le nationalisme, la patrie, tout ça.
Oui, c'était la fleur au fusil aussi, mais eux aussi, ils ont vite déchanté. Ils ont eu des pertes aussi effroyables. Le schéma est identique des deux côtés. Nous, on parle beaucoup du front ouest, hein, mais sur le front russe, c'était exactement le même schéma. Avec les empires centraux. Il y a l'Allemagne, mais il y a aussi l'Empire austro-hongrois. La guerre ne s'est pas focalisée que sur le front ouest. Il y a eu les mêmes phénomènes sur le front est, du côté ottoman aussi, c'était la même chose.
Bruno, si tu veux bien, on va écouter une chanson de la chorale La Petite Rouge de Touraine, dans laquelle tu officies aussi. J'étais bouleversé, ça se passait l'an dernier, le 11 novembre 2021, sur mon marché. D'habitude, ça chante sur les marches de la fac de Tours. L'an dernier, c'était sur le marché, et c'était bien, et j'étais là avec le magnéto. Et on va écouter la fameuse chanson de Craon. Je dis fameuse, mais finalement, pas si fameuse que ça, enfin, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On le rappelle, la chanson de Craon a été écrite de manière anonyme sur un air qui existait déjà avant. Elle date de 1917, qu'on associe généralement aux mutineries. La légende voudrait, il semblerait qu'il n'y ait pas de document qui l'atteste, mais que l'armée aurait offert une forte récompense pour démasquer l'auteur de la chanson de Craon, qui n'a jamais été démasqué, on n'a jamais su qui avait écrit cette chanson, dont les paroles peuvent changer d'ailleurs de temps en temps en fonction des secteurs du front où elle est chantée.
Oui, oui, elle porte différents noms. Ça peut être la chanson de Lorette, la chanson de Craon, on l'a dit, la chanson de Verdun, la chanson de Douaumont. C'est suivant les lieux où il y a eu des combats. C'est une chanson vivante. Elle est complètement anonyme. C'est pas un chansonnier qui est venu en l'écrivant. C'est un truc collectif. Mais elle parcourt tout le front, suivant les événements, les batailles. Donc ça dénote bien un état d'esprit, de révolte. Elle a été véhiculée comme ça. Et les paroles, il y a les lieux peuvent différer, mais c'est vraiment à la marge. Ça veut dire qu'elle a énormément voyagé sur toute la ligne de front.
La chanson de Craon, La Petite Rouge de Touraine.
Quand au bout de 8 jours, le faut terminer, on va rendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la ville. Mais c'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus.
plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Traon, sur le plateau, qu'on doit laisser un pot. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Traon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. Ces malheureux voix sur les grands boulevards, tous ces beaux qui font leur foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées. Pour défendre leur bien, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres furotins. Tous les camarades sont enterrés là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ce qu'on connaît, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
La chanson de Craon, La petite rouge de Touraine, on est toujours avec Bruno. C'est un chant de révolte, donc 1917, hein, l'époque des mutineries. C'est aussi un chant rouge. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. C'est dit très clairement, hein, une fois de plus, hein, la guerre c'est le massacre de gens. On aurait envie de dire de pauvres gens qui ne se connaissent pas au profit de gens. On pourrait rajouter toujours les mêmes, les riches, la bourgeoisie et la noblesse et compagnie, qui se connaissent mais ne se massacrent pas, ou assez peu. Donc c'est une chanson révolutionnaire aussi, Craon. Il y a la lutte des classes dans Craon.
Oui, tout à fait. C'est lorsqu'il dit « ce sera votre tour, messieurs les gros c'est ceux qui ont le pognon, ceux-là ils reviendront ». Et donc c'est une injustice de classe, parce que les embusqués, ceux qui sont planqués, c'est ceux qui sont à l'origine de cette guerre. Et c'est pour eux qu'on crève, c'est ce que dit la chanson. Donc on est vraiment dans une guerre de classe. C'est la bourgeoisie qui est bien planquée, qui ont leurs fils qui sont officiers dans les états-majors, et les fils du peuple qui crèvent. Il faut voir aussi comment ça a été décimé. Il n'y avait plus de chair à canon. Et on a dû faire appel aux peuples coloniaux, tirailleurs sénégalais et tout ça.
Qui n'étaient pas que sénégalais, qui étaient de toute l'Afrique noire, du Maghreb, de partout. Hein.
Oui. Donc on a dû faire appel à l'Empire colonial et aux classes plus âgées. On a mobilisé les vieux, On a reculé dans la mobilisation et on a fait appel aux Russes. Contre des fusils, on les a échangés contre des fusils. C'est quand même incroyable, quoi.
On a échangé des soldats russes contre des fusils français.
On a échangé les soldats russes contre des fusils, c'est-à-dire la valeur qu'on leur donnait, c'était contre des armes, quoi.
C'est des soldats du tsar, hein. C'est avant la révolution d'octobre 17.
Oui, c'était avant la révolution, février 1917. C'était la première révolution. En octobre 1917, c'est la révolution où les bolcheviques...
Mais alors ces soldats russes là que le tsar envoie combattre aux côtés des Français contre des fusils, ils viennent quoi?
Alors dans un premier temps, ils font comme les autres, c'est une immense boucherie, ils sont amenés directement sur le front. En 3 jours, dans l'offensive Nivelle, ils sont 6 000 à rester sur le carreau. Donc en mars, avril, mai... Il y a donc des mutineries. Le pouvoir russe commence à dire on fait la révolution de février, on met en place des soviets dans l'armée russe. Et donc en France, ils finissent par faire des soviets, c'est-à-dire, les soviets, ce sont des conseils. Ils rejettent les ordres des officiers qui sont tsaristes, ils remettent en cause leur autorité. Ils demandent simplement de ne plus aller au front de manière imbécile, quoi, parce que, comme les autres, c'était des boucheries inefficaces. L'offensive Nivelle, notamment, on ne gagnait aucun terrain, on allait au massacre pour rien, pour rien.
Offensive Nivelle.
L'offensive Nivelle, c'est 1917.
De toute façon, ces offensives imbéciles qui pouvaient faire jusqu'à 15 000 morts par jour, côté français ou en face aussi, sûrement. Et cette ligne de front, finalement, de 14 à 18, elle aura finalement peu bougé. Des fois, on aura perdu des dizaines de milliers d'hommes pour quelques centaines de mètres.
Pour quelques centaines de mètres, de les reperdre le jour suivant. Et on recommence comme ça, ça a duré des mois et des mois. On n'a pas gagné une once de terrain. Donc c'était franchement imbécile ou une boucherie sans nom, quoi. Et des deux côtés, côté allemand, c'était pareil.
Et ces soldats russes, alors, qu'on a envoyés combattre aux côtés des Français contre des fusils, qui voilà, décident, vu qu'il y a eu la révolution en 17, font des soviets, donc se mutinent. Qu'est-ce qu'ils deviennent?
Non seulement ils se mutinent, ils remettent en cause tous les accords qu'il y avait avec la Russie, mais ils font peur à l'état-major. Ils ont peur déjà de la contagion. Donc ils sont vite écartés, on les renvoie vite fait dans un camp, au camp de la Courtine, dans la Creuse. Là, les Russes se réorganisent en soviet.
Tous les soldats font pas partie du soviet, en fait. Il y en a qui ne veulent pas suivre non plus cette mutinerie.
Effectivement, il y a une partie de ces soldats qui reprennent contact avec les Français, viennent leur donner un coup de main pour écraser la mutinerie. Donc, au bout de 3 jours, les mutins sont arraisonnés et renvoyés dans des camps, soit internés, soit sur le front. Et d'autres déportés aux travaux forcés en Algérie. Il faudra attendre 1919 pour que le gouvernement des bolcheviques, de Lénine, puisse organiser le rapatriement.
Alors là, Bruno, tu viens de nous parler d'une mutinerie de soldats russes, mais les mutineries couvent, en tout cas la rébellion, le refus d'obéir aux ordres, etc., ça couvre dès le départ, dès 1914. Et 1917, c'est une année de mutinerie. Là, il y en a partout. Et ça, c'est un truc qui a été longtemps d'abord honteux. Sur certains monuments aux morts, on a rajouté le nom de gens qui ont été fusillés parce qu'ils ne voulaient pas obéir aux ordres, de soldats français qui ont été fusillés. Ils ont été rajoutés récemment, hein, pour beaucoup d'entre eux, parce que c'était vraiment honteux. Et la chanson de Craon fait couver ça aussi, hein, c'est ce qu'elle nous dit. C'est un chant de mutinerie. Mais elles ont été couvertes par la propagande, ces mutineries. Elles ont été honteuses longtemps dans notre histoire. Et pourtant, elles ont eu lieu.
Oui, elles ont eu lieu. Et tu peux parler effectivement de la chanson de Craon, parce qu'elle dit bien « Car les Truffions vont tous se mettre en grève, et ça sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. » C'était vraiment une chanson de la mutinerie, de la révolte, on ne veut plus marcher.
Et ce truc de mutinerie et cette chanson de Craon vont être tabous. Elle sera interdite jusqu'en quelle année déjà, Craon?
Jusqu'en 1974. Et il était encore mal vu sous Valls. Souvenez-vous de Valls. Il y a un de ses ministres qui a interdit la diffusion de cette chanson chantée par une chorale d'école, quoi. En 2016, elle était encore interdite par un ministre du gouvernement Valls.
Je vais faire une petite digression. Dans les chansons antimilitaristes et anti-guerre célèbres, il y a le déserteur de Boris Vian, chanté par Mouloudji, qui va être interdit.
Alors c'était un peu plus compliqué parce que Mouloudji a réussi à la chanter en édulcorant le couplet « Prévenez vos gendarmes, que j'emporte mes armes et que je sais tirer ». Ça, c'était les paroles de Boris Vian. Mouloudji a pu la chanter en édulcorant « Prévenez vos gendarmes, que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer ».
Bruno, 1917, les mutineries, c'est aussi l'irruption d'un personnage méphitique dans l'histoire de France, Philippe Pétain, qu'on envoie remplacer Nivelle. Et pareil, la propagande dit que bon, certes, il en a fait passer quelques-uns par les armes des soldats français, mais finalement qu'il a rétabli l'ordre. Tout ce qui est dit dans Maréchal, nous voilà, le sauveur de la France. Propagande, toujours, bien entendu. D'abord, il semblerait, les historiens ont fait des travaux là-dessus, que Pétain était un très piètre stratège. D'abord, il n'est pas resté en fonction très longtemps, et son action militaire elle-même a été inopérante. C'est une période qui a fait de lui, par la suite, un héros. Et d'ailleurs, tu parlais d'actualité récente. Emmanuel Macron, il n'y a pas longtemps, a fait un distinguo quand même. Bah oui, il y avait de Pétain, il y avait le bien... qui a repoussé les hordes barbares et qui a sauvé la France. Et puis oui, il y a eu le second de la deuxième période qui a été moyennement sympa avec les Juifs. Celui-là est plus regrettable, bien entendu.
Je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire.
Novembre 2018.
Et Maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième.
Rappelons d'ailleurs à ce titre que Philippe Pétain a été destitué en 1945 de son titre de maréchal et donc il n'a rien à faire avec les autres bouchers qui, eux, n'ont pas perdu leur médaille de maréchaux. Joffre, Nivelle et compagnie, il est inapproprié de dire le maréchal Pétain, puisqu'il a perdu son grade lors de son procès de 45.
Oui, en tout cas, Pétain n'a rien amélioré sur le front, c'est vraiment de la propagande, de la révision. La preuve, c'est que les mutineries ont continué et sont même amplifiées sous Pétain. On dit que l'ordinaire a été amélioré... Il n'y a pas franchement plus de preuves que ça que l'ordinaire a été amélioré. Il y a peut-être eu un peu plus de permissions, mais ça n'a pas calmé. Oui, on peut dire que Pétain n'a rien apaisé.
Loto, un genou à terre.
À mon commandement, en joue. Feu.
Bruno, puisqu'on évoquait la figure du maréchal Pétain, donc il ne l'est plus, une chanson de Renaud, Renaud du temps de son vivant. Hein.
Du temps où il n'embrassait pas des flics, ouais, voilà.
Ça s'appelle La Médaille.
Un pigeon s'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France. Et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense. Maréchaux assassins, sur vos bustes d'airain, vos poitrines superbes. Vos médailles ne sont que fientes de pigeons, de la merde. Un enfant est venu au pied de la statue du maréchal de France. Une envie naturelle l'a fait pisser contre elle, mais en toute innocence. Maréchaux assassin, le môme, mine de rien, a joliment vengé. Les enfants et les mères que dans vos sales guerres vous avez massacrés. Un clodo s'est couché une nuit juste au pied du maréchal de France. Ivre mort au matin, il a vomi son vin dans une gerbe immense. Maréchaux assassin, vous ne méritez rien de mieux pour vos méfaits que cet hommage immonde pour tout le sang du monde par vos sabres versés. Un couple d'amoureux s'embrasse sous les yeux du maréchal de France. Muet comme un vieux bonze, il restera de bronze, raide comme une lance. Maréchaux assassins, l'amour ne vous dit rien, à part bien sûr celui de la patrie, hélas, cette idée dégueulasse qu'à mon tour je conchis.
La médaille, c'était Renaud. La suite de cette spéciale chanson contre la guerre, c'est à nouveau avec la petite rouge de Touraine pour une chanson intitulée « Je suis fils de ».
Enfant de cette nation et fils d'aventurier, métis et sans mêler, bien qu'on me l'ait caché. C'était le sujet de honte, j'en ferai ma fierté. C'était le sujet de honte, j'en ferai ma fierté. La 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 la. Devant les patrons, même le jour où ils ont passé la conscription, je suis fils de paysan et fils de l'ouvrier. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. La 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 la. De mourir au loin pour la nation, une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne, une alliance forcée de misère et de peine, celle du génocide des premières nations, celle de l'esclavage et des déportations, celle de l'esclavage et des déportations. La, 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 la.
Je suis fils de, par la petite rouge de Touraine.
Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître.
Bruno, avant qu'on se quitte, on va écouter un document qui ne date pas de 14-18. Et alors, c'est pas un anarchiste ou un communiste libertaire qui va parler. En préambule de cette émission, on citait Anatole France. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Je rappelais que j'ai entendu France Inter se gargariser à un moment pendant la guerre en Ukraine, là qui court toujours, que « Oh, cocorico, on a vendu nos merveilleux canons César aux Ukrainiens, ah, l'industrie française est formidable, les marchands de canons sont contents, et il faudrait qu'on s'en réjouisse aussi, parce que ce serait un succès hexagonal. » La guerre, c'est quand même bien pratique pour les marchands de canons. Ça marchait en 14-18, et ça marche toujours aujourd'hui. Et il y a une expression que vous connaissez sûrement, qui est le lobby militaro-industriel. C'est-à-dire quand l'industrie fait des bons bénéfices en fabriquant du matériel à faire pampan.
Et cette expression « lobby militaro-industriel » n'a pas été lancée par un gauchiste. C'est un président des États-Unis, républicain, qui met en garde non seulement le peuple américain, mais la planète entière, contre les dangers représentés par le lobby militaro-industriel. Et ce président républicain américain, c'est Ike Eisenhower, qui lance cet avertissement à la planète, 1961.
We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
Où on aura entendu un président de la droite américaine, militaire de carrière, de surcroît, mettre l'humanité en garde contre les dangers représentés par les marchands de canons. Et dites-vous ça aussi, les amis, de temps en temps, oui, oui, il y a des affreux, en général, c'est ceux d'en face, ils sont généralement très vilains. Et en plus, les ennemis, ils sont bêtes parce qu'ils croient que c'est nous, les ennemis, ces idiots. Mais en fait, c'est quand même bien pratique, quand on est marchand de canons, pour refourguer sa camelote, c'est quand même mieux qu'il y ait un ennemi. Et donc, on dise aux gens, oh, regardez, ceux d'en face, ils sont pas beaux, c'est les ennemis. Il faut financer nos canons et les acheter avec votre argent pour faire la guerre à ces gens qui pourraient nous en vouloir. Donc voilà ce que disait Anatole France, hein, on croit mourir pour la patrie. C'est ce qu'on a fait croire aux gens avec la fleur au fusil et tout ça. On meurt pour des industriels et des marchands de canons. Boris Vian a fait une chanson d'ailleurs là-dessus, hein. Canons à vendre.
Le petit commerce, Boris Vian.
J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corseau, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé. J'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours aux amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers, et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant, je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie, je vais sans souci au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger. Je danse la carmagnole, il n'y a plus personne sur le pavé. Canon en solde, canon en solde.
Toujours dans cette spéciale chanson contre la guerre avec Bruno, vous aurez échappé au déserteur de Boris Vian, mais pas à son petit commerce.
Et toujours à propos du déserteur, en cette année 2022, on pourra notamment avoir une pensée pour les Ukrainiens, ainsi que pour les pauvres jeunes Russes qu'on envoie faire une guerre de merde, comme toutes les guerres. Pourquoi, Bruno, un siècle après, alors que tout ça est oublié, concerne des gens que t'as pas connus, pourquoi est-ce que ça touche aujourd'hui alors qu'on est en 2022 14-18, c'était le millénaire dernier. En quoi ça peut te concerner?
C'est vieux, mais y a aussi moi, l'expérience familiale. Mon père était issu d'une fratrie de 8 enfants. Il était le dernier de sa fratrie. Son frère aîné, qu'il n'a jamais connu, était de la classe 14, c'est-à-dire qu'il était né en 1994. Et donc, il a été mobilisé en 14. Mon oncle a fait donc 2 ans de guerre. Il a servi dans l'artillerie et a été fauché sur le front de Verdun, il me semble, en 1916, à l'âge de 22 ans. Après, ça ne s'est pas arrêté là, dans la famille, puisque son frère cadet a été enrôlé en 1918. Il est décédé le 3 octobre dans l'Aisne, Saint-Quentin. À un mois du 11 novembre, il n'avait même pas 20 ans, quoi. Je connais très peu de choses sur mes oncles, mais j'ai imaginé le drame que ça a pu faire dans la famille, puisque mon grand-père était métayer, il louait un propriétaire, une ferme. Sa force de travail principale, c'était ses fils, pour la ferme, qui était indispensable. Donc, perdre à la fois son fils aîné et son fils cadet, c'était un drame. Ils ne sont jamais revenus. D'ailleurs, ils n'ont jamais pu avoir leur terre à eux. Ils sont morts dans la misère.
Mais ce drame de la perte de tes oncles, donc il y avait une vingtaine d'années quand ils sont morts, donc bien avant ta naissance, en quoi ça impacte ta vie à toi, qui vis dans un autre temps, plusieurs générations après?
Mon père a eu une aversion pour le fait militaire. Bizarre, c'est qu'il a travaillé après pour l'armée en tant qu'ouvrier civil. Il faisait des canons pour la marine nationale. Il a fait son service militaire en 1934 dans la cavalerie. Il a été démobilisé en 1936. Il a été ouvrier et éclate la guerre, 1939. Donc il n'a pas été remobilisé parce qu'il était indispensable à l'effort militaire. Il a réussi à échapper à la mobilisation. Mais après la défaite, les nazis ont occupé l'usine. Il a dû s'en aller parce que c'était trop dangereux pour lui. Je raconte l'histoire de mon père, c'est peu intéressant. Ça n'a jamais été un militariste. Et donc arrivé après, c'est surtout, je voulais faire le lien avec mon frère qui est parti en Algérie, quoi. Le départ en Algérie, mon père qui était complètement inquiet, enfin, là aussi la fleur au fusil, ça ne s'appliquait pas du tout. Il a vu trop de choses pour pouvoir adhérer aux principes militaires, quoi. Donc mon frère a pu revenir d'Algérie indemne. Mais l'armée, non, non. Au niveau familial, ça a été vraiment un truc que l'on fuyait. Jusqu'à moi, qui ai fait mon service militaire. Je suis le seul de la famille, d'ailleurs. J'ai pas eu de chance. J'ai été incorporé dans une compagnie de combat du 2e RIMA. Une arme assez dure, quoi. J'étais déjà antimilitariste, mais je savais pas trop pourquoi. Après l'armée, je savais pourquoi. Voilà.
T'as fait combattre ?
Non, non, j'ai pas combattu. J'ai failli partir pour le Tchad, mais ça ne s'est pas fait. On a le sentiment d'être poursuivi par la guerre, c'est-à-dire on l'a au cul depuis toujours.
On va bientôt se quitter, les amis, et en chanson. Et puisque Bruno évoquait la guerre coloniale d'Algérie que son frère a dû faire, comme plus d'un million de jeunes Français dont on a bousillé la jeunesse entre 54 et 62 pendant cette guerre d'Algérie qui ne deviendra officiellement une guerre qu'en 1999, parce qu'avant on disait les événements. De 54 à 62, près de 250 000 Algériens sont morts, ainsi qu'environ 25 000 Français. Bruno disait à l'instant que son frère s'en est sorti indemne, enfin en tout cas vivant, mais indemne, c'est pas le cas de tous les gamins qui en sont parfois revenus complètement traumatisés, déglingués. La chanson qui suit, signée Jean-Claude Darnal, s'intitule « Le Soudard ». Écrite entre 55 et 62, elle s'inscrit probablement dans le cadre de la guerre d'Algérie.
Dans le canon de son fusil, il a mis une rose de son pays, que lui a donné Samy. C'est comme ça qu'il est parti, mon ami, tu serais mieux au paradis, car là-bas, à ce qu'on dit, une rose dure plus que la vie, mon ami, il ne faut pas t'en étonner. C'est à cause de l'éternité. Dans les cartouchières, cartouchières qu'il a touchées, il a mis les photos de ceux qu'il aimait, sa vieille mère, sa jument, lui, en premier communion. C'est comme ça qu'il est parti, mon ami, tu serais mieux au paradis, car là-bas, à ce qu'on dit, une photo dure plus que la vie, mon ami, il ne faut pas t'en étonner, c'est à cause de l'éternité. Dans le képi, qu'il a coiffé, il a mis de l'eau de pluie, et puis il a mis une grenouille de sa prairie. C'est comme ça qu'il est parti, mon ami, tu serais mieux au paradis, car là-bas, à ce qu'on dit, une grenouille dure plus que sa vie, mon ami, il ne faut pas t'en étonner. C'est à cause de l'éternité. Quand l'ennemi est arrivé, il lui a opposé qu'un pétale de rose fané, une grenouille des souvenirs, en un mot des mots d'amour. C'est pour ça qu'il y est resté, mon ami, tu es mieux au paradis, car là-bas, à ce qu'on dit, les amours durent plus que la vie. Mon ami, il ne faut pas t'en étonner, c'est à cause de l'éternité. C'est à cause de l'éternité. C'est à cause de l'éternité.
Et voilà les amis, c'est avec le Soudard de Jean-Claude Darnal que s'achève cette émission avec notre copain Bruno de Chansons Contre qu'on remercie. Émission à réécouter sur notre site polymixetlavoixoff.com avant qu'on se retrouve très vite sur cette même antenne. Et une dernière citation avant de se quitter. La première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité. Rudyard Kipling. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.